Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay. Merci Laurence de t'être jointe à nous une nouvelle fois.
Bonsoir tout le monde.
Pour animer avec moi cette émission.
Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir.
Nous avons dans le vocal, comme dans tu as vocal. Pu le constater, Michel qui a fait vœu de silence déjà. Alors ça va durer, enfin, oui, au moins 5 minutes.
Ouais, même 2.
Bon, les poissons rouges vous disent bonsoir.
Et là, vous avez reconnu la voix de Bernard. Et dans les studios, nous avons donc Jean-Yves que nous connaissons très bien. Je ne sais pas, Jean-Yves, il est en train de frétiller de la tête.
Oui, je ne sais pas, il frétille depuis tout à l'heure.
Il frétille.
J'entends vaguement des choses dans mon casque.
Ah, d'accord. Ah. Mais c'est Bernard qui nous perturbe.
Ben oui, c'est ça. C'est...
C'est pas possible. À chaque lancement d'émission, j'essaie de faire un truc bien voilà, il faut cadré. Et il y a toujours un truc.
Ah, il cherche.
Bon, enfin, bref, il y a toujours un problème de casque. Voilà.
Est-ce qu'on va y arriver un jour?
Oui. À chaque fois que je parle des casques, je pense toujours au truc de coiffeur, tu sais, les casques.
Oui, pourquoi pas.
Non, en fait, j'entends de l'oreille droite, alors on va dire que ça ira.
Ah, mais c'est peut-être le casque qui a un problème, alors.
Tu nous imagines mais... des casques de coiffeur
non.
À la radio?
Non, non. Mais je me demande si on va commencer cette émission.
Bonjour.
Ah, il fait des signes?
Non, je ne
j'ai
parle pas.
De côté.
Je ne parle pas la langue des signes, je suis désolé. Je ne peux pas. Bon, alors, donc, Jean-Yves est venu nous voir aujourd'hui une nouvelle fois.
Il se déplace.
Il se déplace.
Pieds nus.
Voilà. Pieds nus, les pieds nus, pieds c'est nus.
Ah, mais t'as la Robinson.
Ah oui. Voilà, ça y est, la musique. Ça va mieux comme ça. Oui.
Et les sons furent. Pas la lumière, c'est les sons.
Voilà. Donc, Jean-Yves, donc, de la société de... De la société. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? De la société. Donc, je vois encore une société. De la SA, société anonyme au capital de 500 000 euros.
J'aimerais bien.
Côté au CAC 40. T'es allé voir Trump, non, cette semaine, non? T'as accompagné Macron, non?
Oui, t'as pensé exactement
au mois
de tous les.
Vous avez vu la bise qu'il lui a tapé à un moment donné?
La bise?
Il a fait une bise. Ah oui, Trump, il était même gêné les gens.
Ah, ouais.
Non, c'est Macron qui a fait la bise à Trump. Au début de la conférence de presse, il l'a attrapé par le bras et il lui a fait une bise, une putain de bise. Il lui a claqué la bise.
Ça me rappelle complètement Sarkozy, quoi.
C'est, oui, un petit peu plus.
Sur
Mais Trump avait l'air gêné. Avait l'air un peu gêné quand même. Et le parterre de journalistes a éclaté de rire.
Bah, mais Macron... On en est réduit à ça.
Hein. Ouais, il a roulé une pelle, je crois.
Tout de suite.
Il a roulé une pelle, je crois.
On n'était pas loin.
Macron, en fait, j'ai l'impression, bon, tant mieux pour lui, qu'il réalise un rêve de gosse, tu vois.
Ouais,
le
ouais,
mec, il est président de la France, il va voir le président des États-Unis, il a les yeux qui brillent, c'est comme s'il venait de voir la Tour Eiffel ou je sais pas quoi. Mais voilà, lui, il a son rêve et nous, on a les autres.
Sans jamais revenir sur qui est Trump, c'est quand même ça ce qui est extraordinaire.
Oui, voilà, bon. Après, effectivement, ça laisse songeur. Mais en tout cas, nous avons donc Jean-Yves de MSG, soit qui n'a pas été lui à Washington. On l'avait invité, mais il a dit « Je viens pas à l'émission ».
Ah non, je boycotte, moi.
Je préfère venir sur Pluriel Gay. Donc, de MSG, que vous connaissons. Donc, désormais, nous avons déjà présenté l'association ici, qui s'occupe donc de dossiers délicats, souvent.
On peut simplifier en disant qu'on s'occupe, on accueille et on soutient des personnes migrantes LGBT.
Voilà, tout simplement. Alors, on en avait déjà eu l'occasion de vous avoir souvent à l'émission, y compris avec des personnes dont vous vous occupez des dossiers, qui sont elles-mêmes adhérentes, ces personnes.
Ben là, c'est même pas seulement adhérentes, c'est qu'en fait, elles sont membres de plein droit et qu'on essaye vraiment au maximum de les impliquer dans tous les aspects de notre travail.
Et il se trouve que ce soir, tu n'es donc pas revenu seul.
Non.
À chaque fois, tu viens toujours avec du monde. Et là, tu nous as amené Merlin.
Merlin l'enchanteur.
Il l'a dit.
Il l'a dit quand même. Voilà, c'est un magicien.
C'est ça.
Et bon, après, on ne sait pas dans quel domaine, mais bon, il ne nous
regarde
pas. Cela ne nous regarde pas.
Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est tout qui si on n'est pas là pour faire de la magie. Hein. Merci.
Donc Merlin, tu as adhéré toi-même donc à
MSG.
Tu es membre de cette association, membre actif alors.
Ouais.
Et passif aussi peut-être.
Ah bah oui, mais cela ne nous regarde pas.
C'est pas possible.
Cela ne nous regarde pas. Alors dans le bocal, voilà, ils te disent de te rapprocher du micro effectivement.
Ah, oui. Merci.
Je sais pas où va aller cette émission.
Alors, en fait, voilà, je vais te dire, elle va aller pas très loin finalement parce que.
Mais qu'est-ce que vous avez
Bah, en fait, on a fumé des joints, c'est pour ça. En fait, ce soir, le but est de parler d'une loi scélérate.
Oui. Scélérate.
Oui, scélérate. Je trouve que le mot est bien choisi.
Oui,
c'est très connoté, diraient certains.
Voilà. Mais Jean-Yves, lui, considère que c'est une loi carrément dégueulasse.
Xénophobe, c'est ça.
Xénophobe, voilà. Oui, alors, c'est de ça que nous voulons parler. Je pense que tu vois à quoi nous faisons allusion.
Oui.
Voilà. Alors, c'est une loi qui n'a pas encore été définitivement votée par le Parlement, puisqu'elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Donc, la loi Asile et Immigration, proposée par Gérard.
Lui-même,
Gérard,
président.
Ouais, ça va.
Ah non, Gérard, président.
Bon, c'est presque le cas. Hein.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que... il est ministère de l'Intérieur quand même.
Ah, c'est ça. Le maître à penser de Macron.
J'allais dire, non, il est trop vieux, mais bon, rien à voir.
Oui, c'est ça.
Oui, rien à voir. Et donc, du coup, c'est pour ça que souvent on dit que la vieillesse est un naufrage. Là, ça se confirme. Donc, du coup...
Non, mais lui, il n'y a pas que vieux, c'était un naufrage.
Tu m'avais demandé de me tenir. Non, mais c'est bien.
Non, mais on ne dit pas des noms d'oiseaux. On n'est pas,
en train d'insulter, quoi. On n'insulte que vous qui êtes ici.
C'est vrai.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Non, ce sera injuste. En plus, parce que Gérard, il le mérite aussi.
Donc, ça, toi... en tant que militant et citoyen, très probablement aussi. Oui. En général, on est souvent les deux sont mêlés.
Ouais.
Voilà. Tu es tout à fait, scandalisé par cette loi.
C'est un bon mot, j'allais dire outré, mais oui, scandalisé, c'est... ça...
Voilà. Alors, il se trouve que tout à l'heure, nous allons avoir l'intervention de Sébastien Char, que nous connaissons bien, qui nous a fait le plaisir de venir souvent nous voir ici à l'émission, qui est juriste au Forum des réfugiés. Et qui, Bernard, écoute-moi, c'est important ce que je suis en train de dire. à qui j'ai demandé d'intervenir ce soir par téléphone, on va l'appeler, pour nous parler un peu du fond de cette loi. Puis après, on reviendra sur la thématique qui nous intéresse aussi, c'est en quoi cette loi, scélérate, donc, va-t-elle impacter la migration en ce qui concerne les personnes migrantes, réfugiées, demandeuses d'asile pour des raisons d'orientation sexuelle
ou d'identité de genre.
Bon, voilà. Donc, comme on est en train d'appeler, nous fera signe quand il sera là, Sébastien. Attends, Bernard ajuste ses lunettes.
On prend un premier appel.
Des fois, je ne comprends pas. Des fois, j'aimerais bien imiter Macha Méry. C'est Macha Méry qui avait une émission
C'est trop grave, comme moi, j'allais essayer de l'imiter, mais ça allait être pitoyable.
Elle est vivante, tu Macha Méry. Elle est vivante ou elle est morte? Macha Méry.
Non, je crois qu'elle est morte.
Elle est morte.
Mais il y a
une autre qui est vivante.
Non, on est sur les rubriques.
Il y en a une autre. Brigitte Lahaie, elle est vivante.
Ah, mais oui, mais bon, elle est jeune quand même, Brigitte Lahaie. Non.
Oui, mais dans le même registre.
Elle est moins vieille.
Non, c'est pas le même registre un peu à la radio. Ah non, je confonds avec Macha Béranger, c'est laquelle?
Ah oui, mais moi aussi je confonds. Il y en a une qui est mariée avec le musicien.
Ouais, non, mais c'est Macha Béranger.
Le grand.
Non, c'est Macha Béranger, celle qui avait le chapeau tout le temps.
Oui.
Elle est morte.
Celle qui est morte. Ouais. C'est Macha Méril qui est en vie. C'est la femme de
Le Grand.
Michel Le Grand. Est-ce qu'on a notre invité au téléphone? Parce que nous, on veut.
Mais du coup, je me demandais, Bernard, est-ce qu'il est plus vieux que Gérard Collomb?
Oh putain.
Ah ça.
Non, Gérard Collomb, je crois qu'il est plus vieux.
Ce qui est rigolo, c'est qu'avec Jean-Yves, dans la voiture, on en parlait, est ressorti sur Facebook la fameuse photo de Gérard Collomb avec des...
La manif pour tous.
Avec la manif pour tous.
Bah, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des gens qui je sais pas comment, ils arrivent à se convaincre que Gérard Collomb n'est pas ce qu'il est. Enfin, je comprends pas. C'est quand on est lyonnais, on connaît Gérard Collomb.
Oui, bien sûr.
Je veux dire, les vidéosurveillances, les expulsions... De rappeler que le 115 a quand même fait grève 2 ans de suite pour lui demander d'ouvrir des gymnases et qu'il n'a jamais rien fait. Enfin, un colon, quoi.
Oui, il n'a pas besoin de poser avec des gens de la manif pour tous pour pouvoir
réussir
le personnage, quoi. Ouais.
Disons que ça fait partie du pack.
C'est ça.
Oui.
Le pack.
Ça fait partie de la globalité. Alors, Michel est au téléphone. Attention, mais on est dans...
Speakerine.
Ah ouais, non, mais on est dans...
Speakerine. Micheline.
Il manque un peu de fond.
Comment il s'appelait l'anglais, là?
C'est bon? On a invité? Non.
Tu sais l'anglais qui était speakerin sur Antenne 2?
Il y avait un anglais?
Antenne 2. J'ai dit Antenne 2.
Il était anglais, lui, tu crois?
Patrick...
Oui, Tim Seat.
Non.
C'est pas lui. Mais je vois ce qu'il te veut dire.
Tu vois? Il avait un nom... Simpson Jones.
Ah oui. Il avait un nom britannique, c'est vrai, mais je sais pas si...
Parce que moi, en fait, je suis assez vieille, du coup, toi, je parle d'Antenne 2.
Jean-Yves,
il est
là.
France 2.
Littéralement. C'est bon?
Ah!
Voilà. C'est bien, on a bien meublé, hein.
C'était joli, ouais.
Très intéressant.
On va travailler chez Ikea. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Sébastien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, oui, tu peux dire bonsoir, je t'ai coupé la parole. Tu peux dire bonsoir à tous nos invités, Sébastien.
Oui, bonsoir. Oui.
Voilà. Donc, nos invités, c'est l'association de MSG, Jean-Yves, qui est venu accompagné d'un membre aussi de MSG, Merlin. Et donc, on avait commencé un petit peu à, comment dire, habiller Gérard Collomb, en fait.
Pas le déshabiller.
Non.
Et du coup, en réalité, bon, c'est pas tellement, finalement, le personnage de Gérard Collomb. On disait qu'il n'y a pas de grande surprise hein, dans sa fonction au ministère de l'Intérieur. Il est ce que il a pu démontrer avoir été déjà depuis quelques années ici, mais il est donc à l'instigation, on va dire, de cette loi que nous avons qualifiée de loi scélérate, la loi asile et immigration, contre laquelle Jean-Yves de MSG et beaucoup de citoyens français aussi, d'ailleurs, sont vent debout. Alors, moi, je me suis dit, Sébastien, lui qui est juriste au Forum des réfugiés, qui travaille aussi à la CIMAD, doit bien connaître le fond du problème. Et moi, j'aurais tendance à dire de façon un peu naïve, mais quand même, cette loi, est-ce qu'elle est si terrible que ça? Parce que, par exemple, on nous dit que, en fait, elle est faite, au contraire, pour protéger les étrangers qui font une demande de séjour en France, les étrangers qui sont entrés régulièrement en France. Donc, c'est pour protéger les bons contre les méchants. Est-ce que je résume bien?
C'est
comme ça qu'elle nous est présentée, un petit peu, cette loi.
C'est comme ça qu'elle est présentée. Nous protéger d'un afflux massif de villes submergées. Lyon serait une ville submergée par les migrants. Pourtant, j'ai été maire pendant une quinzaine d'années. Hein, il aurait peut-être pu s'en occuper avant. C'est une loi qui n'a aucune disposition favorable. C'est une loi qui va durablement précariser les personnes migrantes, les demandeurs d'asile, les personnes sous Dublin. On a vraiment des dispositions qui sont très graves. Aujourd'hui, on va avoir un accompagnement qui va être très très difficile, que ce soit pour des associations comme la CIMAD, parce qu'on a de plus en plus de personnes sur lesquelles on n'a aucune possibilité de régularisation. Et en fait, cette loi va consacrer que des personnes soient éloignées, je dirais, ne puissent pas accéder au séjour pendant de très très nombreuses années, voire de manière définitive. Et en plus, on va les punir parce que... on va pouvoir les placer en rétention plus facilement, plus longtemps. Si elles veulent demander l'asile, tout un tas de petits détails qu'on est venu ajouter dans la procédure pour bafouer les droits. Et les conséquences vont être vraiment dramatiques. Je pense qu'on a eu des lois avant qui étaient de vrais reculs. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans le punitif, dans la sanction. On sent la haine qu'a Gérard Collomb vis-à-vis des étrangers. Ouais. Ça transpire de ce texte et de façon l'ardeur qu'il met à le défendre, alors qu'il n'y a strictement rien à défendre, si ce n'est une ou deux petites améliorations, mais qui vont concerner quelques centaines de personnes.
Alors, Sébastien, selon toi, on est dans une loi idéologique.
Ah oui, clairement.
Si tant est que toutes les lois sont toujours plus ou moins idéologiques, politiques, etc. Là, mais là, on est vraiment... dans une perspective bien particulière, je dirais, qui n'est pas, en tout cas, représentative des valeurs que pourrait représenter un homme de gauche, par exemple.
Si tant est que Gérard Collomb est de gauche au-delà de sa carte de parti socialiste, un certain nombre d'années, mais
c'est pas de loi de gauche, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Malheureusement, les Français découvrent ce que les Lyonnais vivent depuis, enfin les Lyonnais précaires, vivent depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que, effectivement, la question de la circulaire sur les centres d'hébergement permettra à l'OFI d'aller faire des inspections sur la ville de Lyon, ça existe depuis des années. Donc, on est sur une loi qui, effectivement, est idéologique. L'idée, c'est clairement de satisfaire un électorat de droite et d'extrême droite. Enfin, c'est sûr, je pense que Gérard Collomb est là pour faire le boulot pour Macron, en disant effectivement qu'il se retourne contre Marine Le Pen. Il y a effectivement des électeurs qui ont voté Marine Le Pen, donc moi je vais faire le mauvais flic et je vais te faire passer les lois qui vont faire que ces gens-là ils y trouveront leur compte dans le fait qu'ils sont au gouvernement. Et cette loi, elle est clairement faite pour ça, parce qu'il n'y a aucune effectivité à ce que des gens restent 90 jours en rétention, alors qu'on sait très bien qu'au bout de 10, 15, 20 jours, on peut déterminer à quasiment 95% s'il va y avoir un éloignement ou s'il ne va pas y en avoir. Et si on n'a pas, c'est parce que la personne va rester 60 jours de plus, que ça va changer les choses. Quand on a des personnes sous procédure Dublin, c'est-à-dire qu'ils doivent aller faire leur demande d'asile dans un autre pays de l'Union européenne, ces personnes, elles sont demandeurs d'asile, qu'on les assigne systématiquement à résidence pendant toute la durée de la procédure, c'est-à-dire pendant 6 mois, voire 18 mois, assignés à résidence, devant aller pointer au commissariat plusieurs fois par semaine, ou qu'on va pouvoir les placer en rétention au tout début de la procédure, c'est-à-dire au moment où on demande à l'État européen qu'on sollicite, est-ce que oui, il peut reprendre la personne ou pas. Aujourd'hui, il faut attendre que cette réponse elle ait été donnée pour que la personne puisse le cacher et placer en rétention. Donc, on est vraiment sur du punitif et sur... On veut appuyer.
Du coercitif.
C'est-à-dire qu'il faut, il faut montrer aux étrangers qu'on peut être méchant avec eux et qu'on va être méchant et que du coup s'ils pouvaient aller ailleurs qu'en France ça serait bien et voilà on va payer les conséquences pendant des dizaines d'années et des gens vont en souffrir pendant des dizaines d'années.
Alors quand on entend, même si on ne s'intéresse pas sur le fond de la loi, on entend quand même parler à la radio, à la télévision, etc., les gens qui s'opposent à cette loi, qui dénoncent effectivement le contenu de la loi. Et ce qui ressort beaucoup, ce qui choque beaucoup, c'est que des mineurs vont être placés, vont pouvoir être gardés en centre de détention. Et ça, c'est quelque chose qui choque. C'est une des choses qui choque le plus, apparemment, au niveau en général, dans cette loi. Est-ce que c'est vraiment, comment ça se passe pour les mineurs, justement, les personnes mineures sur le sol français?
Alors, pour les mineurs, alors on parle des mineurs, il faut distinguer, parce qu'il y a la question des mineurs isolés, et il y a la question des mineurs qui sont avec leur famille. Alors, la situation des mineurs isolés, aujourd'hui, elle est dramatique en France, et elle est scandaleuse à Lyon, puisque la métropole n'a pas été capable d'héberger des centaines de mineurs tout l'hiver. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais on est vraiment dans une situation qui, à Lyon, est dramatique sur le public mineur. Sur la rétention. Alors, sur la rétention, en fait, la loi ne revient pas sur ce qui existe actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mineur qui accompagne ses parents qui vont être expulsés, il peut être effectivement placé en rétention. Un mineur, ça peut être aussi bien un enfant de 15 ans qu'un bébé de 3 mois. Il n'y a pas de limite d'âge ou de question d'appréciation, des vulnérabilités, etc. Donc, il peut être placé en rétention. Sauf que ce qui était demandé par les associations, notamment par la CIMAD, c'était que la loi interdise ce placement des mineurs accompagnants. Parce que la France a été condamnée 4 fois en 2016 par la Cour européenne des droits de l'homme, parce que les centres de rétention n'apportent pas des conditions de sécurité aux enfants pour qu'ils puissent être privés de liberté. Et surtout, les effets psychologiques, les traumatismes sur ces enfants de l'enfermement sont avérés. Et donc la France a été condamnée à 4 décisions par la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc les associations avaient dit, il faut tenir compte de ces condamnations, et derrière, le défenseur des droits a fait un plaidoyer formidable pour demander effectivement à ce que la rétention des enfants soit...
Tu parles de Toubon, c'est ça ?
Voilà, parle de Toubon qui
est une surprise permanente.
Se révèle,
quand je disais la vieillesse est un naufrage, là ça ne le concerne pas du tout, au contraire, lui c'est vraiment...
Voilà, il y a...
Il y a deux personnages là, vraiment.
Il y a effectivement.
Et ça pose aussi beaucoup de questions quand on réfléchit un petit peu à tout ça, comme ce que tout bon est devenu, quoi, la transformation intégrale du personnage, quoi, du personnage politique.
Il fait son boulot. Hein,
oui, mais bon, on pouvait s'attendre quand même. C'est quelqu'un qui a pris des positions dures dans son époque politique, qui était fait partie du RPR avec des positions dures.
Bah, tout bon. Quoi.
Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de baguette magique et hop. Hein, non, mais c'est...
Inattendu,
ça pose question, Berfond, sur les postures des hommes politiques. Laurence, vous voulez parler?
Oui, j'avais une question à Sébastien. Du coup, quand on reprend l'exemple du mineur qui se retrouve donc en centre de rétention parce que ses parents sont expulsés, c'est ça? Les parents sont expulsés et l'enfant y reste donc sur le...
Il reste avec
ses
parents.
Dans le centre de rétention.
Oui. Dans le centre de rétention. Et ils sont expulsés tous ensemble.
Voilà.
Bah oui, c'est ça.
Ah ouais, ok. Non, parce que moi, je croyais...
Ah, bah c'est la loi Colomb.
Ouais, non, mais moi, je croyais... Non, mais attends, je sais pas ce qui est pire. Si c'est mieux ou pire, que l'enfant restait seul.
Après, il y a les mineurs isolés, comme disait Sébastien.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est un autre cas de figure.
Oui, enfin, dans tous les cas, oui, d'accord. Okay. Très bien.
Donc, la CIMAD et le Forum des réfugiés, évidemment, sont vent debout contre cette loi. Qui vraisemblablement va quand même passer. Parce qu'au niveau législatif, je veux dire, cette loi a recueilli quand même une majorité, évidemment, en première lecture en tout cas. Il y a des gens de droite qui ont voté, les Républicains, etc., etc. Alors même si eux, ils disent, ils sont dans une posture politique en disant « c'est pas suffisant », on se demande ce qui serait suffisant, justement, c'est déjà pas mal. Voilà.
Mettre des murs aux frontières.
Voilà.
Mais il y en a déjà, du côté de la Bulgarie.
Oui,
il y en a beaucoup de murs en Europe.
Merlin.
Oh, ouais, j'avais une question. En parlant des enfants, et ici peut-être un couple d'immigrés arrivait ici et avait un enfant et se retrouvait dans un centre de rétention dont l'enfant est né en France. Est-ce qu'ils doivent être expulsés aussi avec l'enfant?
Non, la naissance de l'enfant en France n'est pas du tout une... conditions de régularité du séjour. Donc, il y a beaucoup d'enfants mineurs qui sont nés en France, où les parents sont passés, souvent restés d'asile. Ils ont été au cours de la période où les parents étaient en demande d'asile, donc ils étaient nés sur le territoire. Ça ne donne pas droit au séjour. Donc, l'enfant peut très bien effectivement être expulsé avec ses parents. Et effectivement, sur le projet à plus long terme, comme il ne réussira pas en France, le nombre d'années suffisantes pour pouvoir acquérir la nationalité française, même s'il est né quand il aura la nationalité de ses parents.
Donc, je disais, la CIMAD, le Forum des réfugiés, très opposé évidemment sans doute à cette loi. Vous avez même eu des. Vous avez fait grève?
Alors, alors la CIMAD, il y a eu plusieurs actions sur ce forum, notamment la vente.
Attends, on t'entend pas bien. Je sais pas si ça vient.
Oui.
Mmh. Ouais, le réseau est un peu mauvais. Bon, enfin, voilà. On va essayer quand même. Continuer.
La CIMAD, on a eu plusieurs actions coup de poing.
Ouais.
Notamment avec des autocollants chute de droit, je sais pas si vous les avez vus. Il y a eu des actions devant l'Assemblée nationale, devant le siège d'En Marche, avec des panneaux de code de la honte, c'est-à-dire de sens interdit. Voilà, pour montrer effectivement l'impasse dans laquelle elle est amenée cette loi. Et effectivement, à Lyon, au niveau local, un forum réfugié, donc à l'appel de la CGT, il y a eu 2 jours de grève et de mobilisation d'une partie des salariés sur cette loi, parce que ça va gravement impacter effectivement leurs conditions de travail et l'accompagnement qu'ils peuvent offrir aux personnes qui sont en demande d'asile ou qui sont en rétention administrative.
Donc, j'avais une prévision pessimiste en disant que la loi serait votée certainement en l'état. Est-ce que tu penses que ça va être le cas? Puisque bon, là, c'était la première lecture, il y avait la fameuse navette parlementaire. Et au final, parce qu'on imagine mal le Sénat, de façon, après, c'est pas lui qui a le dernier mot, mais bon, amender de façon plus favorable les différentes clauses de cette loi, quoi. Est-ce que tu crains le pire pour l'adoption de cette loi? Est-ce qu'elle va être adoptée en l'état telle qu'elle nous est présentée à l'heure actuelle, ou est-ce que la navette parlementaire va changer quelque chose au final, à ton avis?
Non, je pense qu'on va avoir, non, je pense qu'effectivement on aura une adoption à l'État. Mais si la commission des lois a fait quand même énormément de petites modifications, chose toute, mais il y a quand même chez les députés En Marche, hein, je crois que j'ai vu dans Le Monde qu'il y avait quand même un première quand même.
On t'entend très très mal, Sébastien, maintenant. Ouais.
Ça recoupe un peu. Ouais.
Il y avait un tiers des députés voilà, En Marche qui n'avaient pas voté la loi.
Oui.
Donc on est, quand même sur, on est quand même sur une, un changement au niveau de la majorité qui n'était pas vu avant. Après, effectivement, je pense que sur le fond, il n'y aura pas de... Il faut dire que les changements pour qu'il y ait une autre philosophie, une autre politique d'accueil, d'accompagnement, seraient tels qu'il faudrait réécrire la loi en entier. Donc, effectivement, on peut être pessimiste.
Sébastien, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que les personnes présentes autour de cette table auraient des questions supplémentaires ?
Des questions, non. C'est juste après, tant qu'à faire, pour revenir sur la conclusion de Sébastien, bah, nous de MSG, ça fait partie de revendications de dire qu'on ne souhaite pas modifier la loi, on souhaite son retrait pur et simple.
Tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est effectivement la revendication de la CIMAD. Le retrait de la femme de la loi.
Voilà.
C'est mal parti, apparemment.
Oui.
Il faut rester. Voilà. Voilà. Chacun doit rester droit dans ses bottes et continuer à agir, hein, dénoncer en tout cas certains aspects de cette loi qui, effectivement, prend une orientation pour le moins douteuse. Et encore, bon, je suis soft.
Ouais. Non, mais si, on peut, bah si, on peut employer c'est tous les mots.
On avait dit pas fasciste, pas pétiniste. Hein, bon. On a dit qu'on ne faisait pas ces mots, ni pétiniste, ni fasciste.
Elle est clairement. Ouais.
Ouais. Bon, je dis ça, je dis rien. Voilà.
En fait, j'ai l'impression que cette loi va amener toute une vague de lois restrictives, mais qui va concerner après tout le reste des citoyens français. Tu vois, j'ai l'impression que c'est la première grosse étape pour, je sais pas,
mais
la suite.
Moi, ce qui m'inquiète,
donc,
quand même...
Tout à l'heure, on disait fasciste, Jean-Yves disait fasciste, mais je crois qu'on y va tout droit.
Mais là, je suis désolé de t'interrompre, mais on a eu la loi sécurité, on a eu la loi travail. Il y a en ce moment même un projet de loi de modification de fonctionnement parlementaire avec une mainmise sans précédent du gouvernement sur le Parlement. Enfin, là, on est complètement dans la Turquie d'Erdogan, hein, mais et visiblement, personne ne s'en rend compte. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, cette loi, ce n'est pas la première, c'est la troisième, en fait.
Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui se passe, c'est qu'aux prochaines élections présidentielles, Macron va passer quoi avec 85% des votes, quoi.
Non, il n'arrivera pas en 2022. Il démissionnera avant.
C'est la question que je me pose. Je me dis, cette orientation prise par le gouvernement, ils disent, nous, on a été élus pour faire notre programme. On fait notre programme.
Bon. Oui.
Mais est-ce que cette... Et on tient compte des avis des citoyens. Sébastien, il parlait de gens de droite, d'extrême droite. Évidemment, ils sont d'accord avec ces lois. Mais globalement, est-ce que ça ne représente pas aussi une majorité, enfin une opinion dominante dans le pays?
Mais malheureusement, oui.
Que ce soit, sans parler de gauche ou de droite, parce qu'il y a des gens... qui parlent, qui disent les migrants sont dangereux pour nous,
mais
pour nos
sûr.
Enfants, et qui sont des gens de mon quartier, qui sont pas des gens qui sortent de Neuilly.
Si je propose ma lecture des choses, c'est qu'effectivement, le cœur du problème, c'est qu'on a deux personnes, Gérard Collomb et Emmanuel Macron, qui sont en train de mettre en place un système où la notion même de droit est en train de disparaître par rapport à... Enfin, elle est remplacée par ce qu'on appelle la gouvernance. La gouvernance, c'est quoi? C'est uniquement un procédé économique ultra-libéral qui consiste à dire on s'en fiche de savoir si des gens ont des droits, ont pas des droits. Là, on est complètement dans notre sujet puisque c'est le cœur du problème avec cette loi, c'est que Gérard Collomb, il a l'air d'avoir oublié que les personnes migrantes ont des droits en France. C'est le droit international qui régit tout ça. C'est pas lui qui décide. Mais lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que sa proposition de loi est plus économique, elle est plus rapide. Elle sauvegarde les apparences du droit. Effectivement, tout le monde est content. Mais personne ne se rend compte de ce qui se passe vraiment. C'est la même chose avec la loi sécurité. C'est la même chose avec la loi travail. C'est exactement le même argumentaire pour la loi de modification du jeu parlementaire. C'est ce qu'on appelle un hold-up ultra-libéral sur un pays. C'est ça.
Bon, Sébastien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sinon, on va se quitter.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord et j'ajoute pas, il y a la... Parce que j'ai soutenu les avocats en grève, il y a la réforme de la justice. La réforme de la justice qui va dans le même sens.
Des universités.
Et des universités aussi, effectivement. Mais de passer à des procédures judiciaires où il n'y aurait pas de juge, où tout serait... où des algorithmes pourraient rendre des décisions de justice dans des contentieux simples. Enfin, on va effectivement vers un système de gestion et de gouvernance et pas de démocratie et de respect des droits.
Une entreprise, quoi.
Oui, c'est ça.
Un peu, oui, c'est ça. C'est...
Bon. Eh bien, sur ce constat,
non, je pense que
j'ai une juste idée. Là. Hein, ça, ça, ce
que on va éviter quand même.
Bon, en tout cas, merci Sébastien d'avoir accepté. Alors, j'entends plus rien là, dans le casque. Ça se plaît, il y a.
Si.
Oui, c'est bon. Ah bon, bon. Sébastien, t'es toujours là.
Oui, je te vois.
Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci Sébastien.
Et à très bientôt. Donc, Sébastien, juriste spécialisé de droit international à la CIMADE et au Forum des réfugiés. Merci Sébastien, à très bientôt.
Merci à vous.
Bon, alors donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on s'écoutait un peu de musique,
ouais, ça ferait du bien.
Parce que ça va déplomber l'atmosphère.
Si on écoutait du Michel Sardou, non, je déconne.
je suis fragile.
Bah là, on serait un peu dans la même, finalement, dans la lignée de tout ce qu'on a dit jusque-là.
On va écouter autre chose.
Voilà. Bon, Bernard. Parle, tu as le droit de parler. Qu'est-ce que tu as envie qu'on écoute? Dis-nous, c'est toi qui l'as choisi.
Je vais mettre un petit coup de champagne quand même.
Champagne,
voilà. Oui, allez. Ça serait bien.
Alors, je voulais dire, bon, champagne, c'est pour un hommage à Jacques Higelin, évidemment. Alors, la semaine dernière, j'ai déjà passé un petit morceau de lui. Là, encore une fois, Jacques Higelin, personnellement, bon, j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, j'aime toujours d'ailleurs. Et champagne, je la passe régulièrement, notamment pour Halloween. Et Higelin, c'est un maître des mots pour moi, c'est un poète, et c'est un véritable chanteur. Et puis, bon, je veux pas faire le mec chiant, mais moi, j'ai rien contre Johnny Hallyday, mais on voit la différence entre les deux.
Non, mais c'est pas, tu peux pas comparer.
Non, mais je veux dire par rapport aux deux traitements, si tu veux, de leur décès. Si tu
Oui, hein, oui, voilà. Oui, bien sûr.
Je reprends, il faut pas, on peut pas comparer.
Voilà, c'est pas possible. Et je rappellerai Jacques Higelin, qui était aussi acteur, d'ailleurs, au début de carrière, a travaillé aussi avec notre copine. Brigitte Fontaine.
Oui, voilà. Mais tu sais, il y a une rumeur que j'ai cru pendant longtemps, comme quoi ils étaient frères et sœurs.
Ah oui?
Oui, mais en fait, pas du tout.
Pas plutôt fils et mère, c'est Brigitte Fontaine.
Oh là, le goujat. Et attends, j'ai un autre truc. Alors, j'ai appris un autre truc aussi. Je vous dirai après.
Ouais.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis nécrophages. Voici mon message. Cauchemars, fantômes et squelettes, laissez flotter vos idées noires, près de la mare aux oubliettes, venus du sphère obligatoire. Lutin, anciol, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse, un peu de dû, me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés, qui sont venus sans cravate. Ah, il va marquer. Elle me lance un œil hagard, et vomit sans crier gare, quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales, égéries insatiables, chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale, qui charment nos âmes envahies par la mélancolie. Envoie satyre, joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. L'air tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques et ne se dressait un pont dans un concert de chouron disant le ton pathétique que l'état des obscènes cyniques et corrompus a su grief de leur peine à ceux qu'ils ont élus car devant tant de problèmes. Déjà le ciel blanchit, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
La seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Tu as 30 secondes, Laurence, pour nous dire ce que tu voulais nous dire.
Sur Jacques Higelin. Par rapport à Jacques Higelin.
Ouais. Non, dans
Et tu t'en souviens, en fait.
Jacques Higelin tout seul. La chanson « China Girl », qui a été écrite par Iggy Pop et David Bowie en 1976-77, en fait, a été inspirée par une des compagnes de Jacques Higelin, avec qui il a eu son premier fils qui s'appelle Ken, et cette dame s'appelle Quelan, et c'est elle qui a inspiré la fameuse chanson de China Girl.
J'ignorais complètement.
Bah, moi aussi.
Voilà, voilà. J'apprends quelque chose. Qu'est-ce qu'on apprend comme chose avec toi, Florence ?
Écoutez, je suis là pour ça. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Donc, je me retourne à nouveau vers toi, Jean-Yves. Nous avons donc évoqué un petit peu le fond de cette loi, sa portée, etc., idéologique en tout cas et politique. Nous, dans la thématique de l'émission, on est intéressé évidemment par les thématiques LGBTI. Mmh. En quoi cette loi peut en plus impacter donc, sur les demandes d'asile des personnes pour des raisons d'orientation sexuelle ou d'identité de genre ?
Alors, du coup, ça maintenant, ça va être une question piège. Puisque une des grandes surprises de la loi telle qu'elle a été votée, c'était avant-hier du coup.
Hier.
C'est que il y a la mention des persécutions en rapport avec l'orientation sexuelle comme un motif de ne pas considérer des pays comme étant sûrs. Mmh. Ça c'était assez inattendu. Bon, il y a aussi le fait que personne n'en parlait vraiment. Donc, pour répondre à ta question, nonobstant ceci, il faut voir deux choses. La première, c'est qu'une personne migrante LGBT reste une personne migrante. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport à tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ben, les personnes migrantes LGBT vont prendre de plein fouet les mesures de cette loi. Donc là, c'est... le premier point, ça va être la restriction à l'accès au territoire français, de savoir que la loi met en place des systèmes justement dans les ambassades des pays. En fait, c'est des systèmes de tri où la personne est censée, dès cette étape-là, expliquer pourquoi elle veut demander l'asile en France. Et ce sera, en fait, on est sur un système discrétionnaire. Ce sera les fonctionnaires qui seront en place, qui vont décider, oui, est-ce que le motif évoqué est suffisant pour pouvoir demander l'asile ou non. Il va y avoir la procédure Dublin, évidemment, puisque hélas, c'est presque un tiers des personnes qui sont concernées par cette procédure. Donc pour rappeler très rapidement, la procédure Dublin, c'est un système génial qui a été mis en place par... génial quand on s'appelle Macron, évidemment. qui a été mis en place c'est dans l'Union européenne. Et en fait, c'est les... Très clairement, c'est les pays du Nord, la Grande-Bretagne à l'époque, l'Allemagne et la France, qui ont imposé aux pays du Sud, donc c'est essentiellement l'Espagne, l'Italie et la Grèce, de récupérer tous les migrants qui seront passés par eux pour venir en Europe. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un système très très simple, c'est le système des visas et le système de prise d'empreinte. Dès qu'une personne migrante a un visa, par exemple, va avoir un visa italien ou espagnol pour venir en France, bah, c'est le visa qui va déterminer le pays où il va pouvoir demander l'asile. Donc en gros, bah, c'est l'Espagne et l'Italie et pas la France. En gros, c'est une manière très simple de se débarrasser d'au moins un tiers des demandes d'asile qui devraient être effectuées en France. Comme Sébastien le disait, il y a tout le problème. Ça, ça va être un vrai... C'est sûrement le cœur des problèmes de cette loi, c'est l'accélération unilatérale de toutes les procédures. Tout est accéléré. Donc évidemment, notre cher Gérard Collomb le présente comme étant une manière de protéger, d'aider les personnes demandeuses d'asile, puisqu'elles passeront moins de temps dans la procédure. Ce qu'il ne dit pas, c'est que accélérer ces procédures, ça veut dire moins de temps pour préparer son dossier, c'est moins de temps pour pouvoir effectuer des recours, et c'est maintenant pour pouvoir se défendre lorsque cela est nécessaire. Nous de MSG, on est frappés de plein fouet. Hein. C'est de dire, par exemple, le simple recours pour la CNDA va être divisé par deux. C'est-à-dire que nous, en gros, on va devoir effectuer le même boulot en deux fois moins de temps. C'est aussi simple que ça. Le but, très clairement, c'est de bâcler toutes les procédures. C'est ça ce qu'il faut voir aussi. Hein. C'est,
voilà, c'est expulsé,
ouais.
En fait.
Oui. Bah, c'est-à-dire que tout est accéléré. Donc on regarde là, encore une fois, on revient sur les problématiques LGBT. Puisque les personnes migrantes qui demandent l'asile du fait de persécutions en relation avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, ce sont des cas difficiles, très très clairement, puisque les persécutions dont on parle, ce sont des persécutions qui sont difficiles à établir.
Ouais.
À part, effectivement, il y a quand même des cas, hélas, de personnes qui sont torturées carrément du fait de leur statut, de leur situation. Dans beaucoup, beaucoup de cas, ce sont des personnes qui vivent des persécutions quotidiennes, mais qui ne vont pas jusqu'à l'agression physique ou qui ne vont pas jusqu'à de véritables cas de torture. Ça veut donc dire qu'il faut préparer tout ça, il faut préparer la personne, lui expliquer comment elle doit parler à l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il faut aussi, bon ça c'est une autre chose dont la loi ne parle absolument pas, il faut imaginer le choc pour les personnes LGBT qui viennent en France quand on leur dit « bah écoutez, il va falloir que vous prouviez que vous êtes gay, vous êtes lesbienne ou vous êtes trans ». C'est-à-dire que c'est là vraiment la dernière chose à laquelle elles pensaient. Au-delà de ce choc, il y a le fait de pouvoir justifier, prouver qu'on est bien LGBT. C'est pas avec des procédures accélérées que les personnes vont être en condition de le faire. C'est ça ce qu'il faut voir. Le dernier point, donc, que je reviens donc à ce que j'annonçais, c'est cette mesure qui, pour moi, a tout d'une mesure de pinkwashing, de dire « Ah si, regardez, on a mentionné enfin l'homosexualité comme un motif de persécution dans les pays africains, asiatiques et américains ». De dire oui, c'est très très bien, sauf que absolument rien n'a été, en tout cas à ma connaissance, rien n'a été proposé pour pouvoir clairement définir qu'est-ce qu'on appelle une persécution LGBT. Est-ce que c'est uniquement, justement, encore une fois, des cas de torture? Est-ce que c'est uniquement, par exemple, la présence d'une loi qui prévoit de l'emprisonnement, qui prévoit des amendes, voire la peine de mort pour les personnes concernées? Mais si c'est le cas, ça met de côté toute une série de persécutions auxquelles les personnes sont exposées quotidiennement et qu'elles ne pourront pas faire valoir comme étant justement des persécutions réelles et sérieuses. Et surtout, je disais, le pire là-dedans, c'est que le principal obstacle pour les personnes LGBT qui viennent en France pour demander l'asile, c'est la difficulté à prouver. Donc, oui. Une fois qu'elles sont bien LGBT, la loi ne prévoit absolument rien dessus.
C'est-à-dire qu'à la base, l'administration considère qu'elle met en doute la parole des personnes et qu'il faut que ce soit c'est à la personne de... Ça me fait penser à... J'en avais déjà parlé, il y avait un court-métrage rigolo... c'est une façon de parler, mais assez réaliste quand même, sur des tests qui étaient passés sur des hommes homosexuels qui se passaient en Tchécoslovaquie, en République tchèque, ça n'existe plus, Tchécoslovaquie, il faut que je remette mes fiches à jour, en République tchèque, où on leur montrait donc un film pornographique gay et on mesurait leur taux d'excitation, etc., voir s'ils étaient véritablement excités par des. Ça, c'était en République tchèque, ça a été interdit.
Heureusement, oui, c'est, mais heureusement, c'était une réalité. Les tests psychologiques, les tests pratiques, évidemment, ouais. Sont interdits. N'empêche que tu as complètement raison, moi je suis encore plus radical. Pour des raisons complètement fallacieuses, les deux administrations françaises qui s'occupent d'examiner les demandes d'asile, donc l'OFPRA et la CNDA, partent du principe qu'une personne LGBT ment. Qu'elle vient en se présentant comme LGBT, parce que c'est tellement plus facile d'obtenir l'asile de cette manière-là que il faut être très vigilant, et donc ça explique que toute une procédure qui, pour moi, est inacceptable. C'est un vrai problème qui dépasse le cadre strict de cette loi. C'est le fait que la population française n'imagine pas ce qui se passe à l'OFPRA, ils n'imaginent pas ce que ressentent, ce que vivent ces personnes qui sont obligées de déballer leur vie intime, leurs sentiments, certaines fois jusqu'à leur vie sexuelle, pour prouver qu'elles sont gays, dans un espoir hélas désespéré de pouvoir obtenir ce fameux droit d'asile.
C'est bizarre, parce que quand tu me dis ça, je sais pas ce que vous en pensez, ça me fait penser aussi au problème du parcours trans en France notamment.
C'est exactement la même chose. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Pour d'autres raisons, mais c'est similaire.
Oui, voilà, ouais, c'est pareil. Il faut que la personne prouve que...
Prouve qu'elle est trans, voilà. C'est ça. Mm. Et, c'est pareil.
Et elle passe par des psychologues, par le main des psychiatres.
Des spécialistes qui savent mieux qu'elle, bien sûr. Voilà.
Donc, je vais me tourner vers ton invité, Merlin, parce que je voudrais savoir ce que lui, Merlin, en pense. Ça fait combien de temps que tu es en France, déjà?
Ça fait 4 mois.
4 mois. Tu viens de quel pays?
Cameroun.
Du Cameroun. Ah. Il faut parler devant le micro.
Oui,
le Cameroun, on le sait, c'est un pays qui a une législation qui pénalise durement l'homosexualité.
Ah oui.
Ouais. Quand tu nous entends parler, ça fait 4 mois que tu es en France, qu'est-ce que ça... Est-ce que tu es déçu, finalement, d'être venu en France ou pas?
Déjà, parce que Jean, il va avec moi, je me dis non. Mm. Parce que déjà, quand je venais, je ne comptais pas rencontrer des personnes qui pouvaient nous comprendre comme Jean-Yves. Mm. Il est là, il nous comprend au sein de l'association. Déjà, ça me fait ne pas dire que je suis déçu. Mais du fait que chaque jour, on apprend qu'il y a des lois comme celle-ci qui est passée, je peux dire ça me pousse à perdre espoir. Quoi. Mm. Je ne sais pas si on peut appeler ça une déception. Ouais. Mais je ne vais pas mettre la barre haute. Je ne vais pas l'appeler déception.
Okay. Ouais. De toute façon, vous avez obtenu quand même des choses très positives, rassure-moi. Il y a des invités qui étaient là
Il y a des personnes qui ont obtenu le droit d'asile, mais on a aussi toute une proportion de personnes qui ont été déboutées par l'OFPRA, qui sont en recours CNDA.
Alors, CNDA, il faut que tu nous dises ce que c'est.
La CNDA, en fait, c'est une espèce de cour d'appel. C'est quand l'OFPRA, c'est l'administration principale qui s'occupe à la fois d'étudier les demandes d'asile, et si la demande d'asile est acceptée, c'est l'OFPRA qui va s'occuper de la personne, notamment l'administration qui va fournir les papiers. La CNDA, c'est un petit peu comme un tribunal administratif pour la préfecture. C'est un petit peu ça. C'est si la personne qui a demandé l'asile et qui n'a pas été acceptée par l'OFPRA conteste évidemment la réponse de l'OFPRA, c'est la CNDA.
D'accord.
Et donc là, c'est un peu affolant. On en a déjà une dizaine de personnes.
Ouais.
Donc ça commence à faire beaucoup.
Une dizaine de personnes
qui ont été déboutées de l'OFPRA, ouais, qui sont en recours CNDA.
D'accord. En proportion, tu pourrais établir une proportion de dossiers acceptés, d'autres refusés?
Oula. On va dire que sur les personnes qu'on suit depuis le départ, on a 4 personnes qui ont obtenu l'asile, mais donc comme je disais, on en a une douzaine de personnes qui l'ont pas obtenu. Donc, je suis en train de me dire qu'on est à peu de choses près, on est sur les résultats nationaux. Les résultats nationaux, ça tourne autour d'un tout petit 20% de demandes d'asile qui sont acceptées.
D'accord.
Ça fait,
Et qu'est-ce qui fait qu'une demande d'asile est acceptée? Les 12 qui ont été...
ça, si on le savait.
Mais pourquoi il y en a 4 qui sont acceptées et 12 pas,
En fait, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est la partie vraiment difficile pour les personnes migrantes. C'est ce qu'on appelle le dossier. C'est-à-dire si la personne... Déjà, c'est savoir si la personne arrive bien à s'exprimer ou pas. Mmh. Et là, je ne parle pas de la qualité de leur français. Hein. On sait très bien qu'il y a des personnes qui arrivent bien à parler d'elles. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus pudiques, beaucoup plus réservées, qui ne vont pas arriver à pouvoir bien expliquer leur situation. Il se trouve que dans ce cas-là, l'OFPRA, c'est un petit peu comme un entretien d'embauche. Ils n'ont rien envie de savoir de l'état psychologique, de la personne, ses persécutions, ses traumas, etc. C'est juste, vous nous prouvez que vous êtes gay. Si vous êtes gay, vous êtes persécuté, c'est bon. Sinon, hop, vous dégagez. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que... Bah, alors c'est un des rares cas, on va dire, où il y a hélas des situations qui vont être plus faciles à présenter que d'autres. C'est-à-dire que quand on est une personne trans, là, effectivement, c'est un des rares cas où des avis psychologiques peuvent intervenir, peuvent jouer favorablement, qui n'existe pas pour les personnes gays ou lesbiennes, par exemple. Le dernier point, ça va être l'épreuve. Là encore une fois, c'est très très moche puisque des personnes qui ont vécu des persécutions qui pour nous évidemment endommagées sont réelles, mais qui ne vont pas forcément inclure des persécutions physiques, sont très clairement désavantagées. L'OPRA va partir du principe que oh bah oui mais bon oui on vous a insulté et puis oh oui si vous avez vécu plein de choses très très moches et oh bah oui vous devez vous cacher mais oui bon mais si vous faites un petit effort voilà quoi. C'est-à-dire qu'on a des personnes à qui les officiers de protection, les personnes étaient bi et l'officier de protection leur dit bah du coup tout va bien, vous prenez une femme, vous faites des enfants, vous faites semblant quoi. Enfin, il faut imaginer la personne qui reçoit ça. Qu'est-ce qu'elle vit, en fait? C'est vrai que les officiers de protection s'en fichent comme l'an 40.
Hein. Et toi, Merlin, t'as déjà passé la... Comment dire ça, à la sellette, comme on dit, sur la sellette?
Pour l'instant, je suis en procédure du gland parce que je viens d'ici par l'Italie. Ouais, donc je suis en train d'attendre la suite. Mais seulement à propos de la loi, j'aimerais faire passer un message. Je ne sais pas à qui il sera porté, mais je pense que tous ceux qui nous écouteront comprendront. Donc, avant la loi, il y a eu des lois. Et après cette loi, il y en aura d'autres. Donc, voilà, on fera avec. On ne sait pas si elle sera bonne ou pas. Il y aura d'autres lois qui seront mieux et d'autres qui seront plus mauvaises. Donc, moi, j'ai un mot à dire aux migrants comme moi. C'est de rester fort parce que déjà, on a réussi à faire la chose la plus difficile. Vous savez, en Afrique, la justice, elle est populaire d'abord. Donc, c'est pas comme en France où... On veut s'asseoir, vous avez vos droits, tout ça, non? Donc, voilà. Si on a pu... je peux pas raconter comment ça se passe, mais si vous avez Internet, vous pouvez regarder, vous tapez sur YouTube et consort, vous allez voir tout ce qui se passe là-bas. Bon, on fera avec. Donc, le mot, c'est de rester fort, quoi. Parce qu'après cette loi, c'est pas la dernière, n'est-ce pas? C'est la toute dernière des lois.
Ah ben, ce sera la dernière en vigueur. Non,
quand ça sera la dernière. Oui, voilà, c'est ça. Après, il y a des législatures qui sont renouvelées, il y a des élections.
Mais ce que je veux dire, c'est après cette loi, il y en aura encore des milliers. Vous comprenez?
Oui,
après Macron, il y aura peut-être Sarkozy encore ou encore.
Non,
je ne sais pas. Il y aura des lois et des lois.
Je ne sais pas si ça changera beaucoup.
Il faut rester fort, quel que soit ce qui nous arrivera, qu'on soit dans les centres de détention. Ouais, c'est juste la force qui compte.
Bah, c'est minant, t'as raison. Il ne reste plus que ça. De toute façon.
Nous allons presque devoir nous quitter, mais auparavant, peut-être que Jean-Yves, tu avais quelque chose à rajouter.
Je vais rebondir quand même sur ta remarque, Merlin. Là, cette fois-ci, c'est plus du tout un message adressé aux personnes migrantes, mais c'est plutôt un message qui s'adresse à ceux qui comprennent pas le bordel autour de cette loi. C'est juste de dire qu'effectivement, là, Merlin a tout à fait raison en disant que les personnes migrantes, malgré la dureté, malgré l'aspect inhumain de cette loi, pour les personnes concernées, le plus dur est quand même derrière elles. C'est-à-dire qu'il suffit d'essayer d'imaginer quand même qu'est-ce que ça signifie pour une personne de tout perdre, de laisser son pays, sa famille, ses amis derrière soi, de laisser certaines fois une situation très très bonne. Ça, Colomb, bizarrement, n'en parle pas. Des gens qui avaient une très bonne situation, un très bon salaire, un très bon travail, et qui quittent leur pays du fait de persécutions, de traverser le Sahara, de rappeler que rien qu'en 2017, les estimations sont à 10 000 morts dans le Sahara, de faire ce qu'on peut pour traverser la Méditerranée, là encore une fois, c'est 3 000 morts en Méditerranée en 2017. Donc après, quand on a des personnes comme Macron et Colomb qui viennent parler de migration, de confort, de parler de gens qui viennent en France uniquement pour parasiter un système économique et social, je trouve que c'est vraiment insultant. Enfin, vraiment de dire, de garder le sens des perspectives, de dire que on peut penser ce qu'on veut de ces lois, on peut penser ce qu'on veut des personnes migrantes, mais il y a quand même des choses, des limites qu'il ne faut pas dépasser. Dernier point, j'en profite. Pour moi, c'est important aussi. C'est de rappeler deux choses. La première, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que les personnes migrantes ont des droits des droits non négociables. Encore une fois, c'est des choses qui ont été décidées bien au-dessus de la loi française. Notamment, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je profite de mon temps de parole aujourd'hui pour rappeler qu'il y a un article dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme que la France a signé. Hein. C'est l'article numéro 13 qui dit très très simplement que toute personne a le droit de quitter son pays pour s'établir dans un autre pays. De revenir dans son pays, c'est l'envie. C'est ce qu'on appelle le droit libre droit de circulation. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on prend la pleine mesure de cet article 13 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit d'asile ne devrait même pas exister. C'est-à-dire qu'on est dans un système international où les gens ont le droit de partir pour n'importe quelle raison de leur pays, de s'établir dans n'importe quel pays de leur choix, pour n'importe quelle raison. Ces personnes ont le droit de s'installer, de rester, de travailler, et dans le cadre des problématiques LGBT, ça, c'est vraiment le but, c'est vraiment le fer de lance de nos revendications, de dire les personnes LGBT migrantes ne devraient pas avoir à passer à l'OFPRA, à être humiliées à l'OFPRA en devant essayer de prouver qu'elles sont bien LGBT. Non, ces personnes devraient juste avoir l'opportunité de quitter un pays dans lequel elles se sentent pas bien, dans lequel elles sont persécutées du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, et de pouvoir recommencer leur vie dans un pays qui serait la France, qui serait l'Allemagne, peu importe. Voilà.
Bien, ça sera la conclusion, parce que nous allons bientôt devoir nous quitter. Alors, je salue tout le monde, hein, au cas où on soit coupé, on est souvent coupé. Merci d'être venu. J'avais juste... merci d'avoir
bloqué. On ne voit pas, on ne peut pas. Voilà.
Merci Merlin, merci Jean-Yves, merci Laurence, merci les poissons rouges dans le bocal. Bernard et Michel.
On vous aime.
Juste, j'avais des annonces à faire. Alors, tu sais, Laurent, on n'aura pas beaucoup le temps de développer, on va le développer plus tard. C'est l'anniversaire, les 5 ans du mariage pour tous. Voilà, donc 40 000.
L'apocalypse n'a pas eu lieu.
Voilà, c'est ça, nous sommes toujours là.
Une demi-loin.
Oui, une demi-loi en 2015.
C'est une petite loi nette.
Parce que ça n'a absolument pas réglé le problème, justement, le problème qui ne devrait pas en être un, de la filiation, de l'homoparentalité.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Alors, à ce sujet, d'ailleurs, il va y avoir, je vais dépêcher, parce qu'on a bientôt fini, le 27 avril, une table ronde sur la transparentalité, oui, c'est ça, et le mot transparent, toi, et homoparentalité,
c'est ça.
Quel mode de procréation pour les minorités sexuelles organisé à la mairie du 1er arrondissement par le collectif Égalité, c'est le 27 avril 2018 à 19h30, donc à la mairie du 1er. Alors ensuite, on sait qu'en ce moment, oui, c'est par rapport aussi, surtout aux états généraux de la bioéthique, parce que là, on est très vénère,
donc c'est vendredi.
Parce que la manif pour tous a tout phagocyté, on en a déjà parlé ici, régulièrement, et on continue d'en parler, Le 28 avril, états généraux des migrations à l'Université Lyon 1er, assemblée citoyenne, proposée par des associations locales inquiètes de la politique migratoire répressive du gouvernement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter encore ? Ah oui, il va y avoir un truc sympa aussi, enfin ça devrait l'être, en tout cas, le dimanche 29 avril, mémoire queer asiatique.
Oh.
Voilà. De 14h à 21h, dans un lieu secret, qui ne communique pas.
Oui.
Oh. Tu connais apparemment Jean-Yves.
Oui, tout à fait.
Donc, pour savoir où ça se passe, c'est contact.
Vous appelez Jean-Yves au 07.
contact@mémoireminoritaire, ça se tient tour.org. Ouais. contact@mémoireminoritaire au pluriel.org. Pour savoir où ça va se passer, c'est organisé par le collectif Déracinés et collectif asiatique, donc décolonial.
Tout à fait.
Thématique queer asiatique. Voilà.
Génial.
Voilà, j'ai presque tout casé. Ah oui, juste pour dire au labor public, huis clos est repris.
Mais il y a toujours un truc à dire.
C'est huis clos de Jean-Paul Sartre, monté par Olivier Rey.
Tout à fait.
Voilà. Qui a eu une bonne, bonne presse.
Bonne
déjà.
Presse.
Là, il remet ça au labor public.
Très
jusqu'au
bien.
4 mai, la pièce. De, voilà. Bah, c'est bon, du coup, on n'est pas coupé.
Ah
Pluriel gay.